VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h GMT, 13h à Bujumbura. Bonjour à tous. Les deux chambres du Parlement burundais se réunissent aujourd'hui en congrès extraordinaire pour débattre de l'annonce par l'Union africaine du déploiement d'une mission de maintien de la paix au Burundi, engluée dans une grave crise politique depuis 8 mois. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, qui a autorisé cette mission, avait donné 4 jours à Bujumbura pour accepter ce déploiement, faute de quoi le bloc panafricain prendrait des mesures supplémentaires pour s'assurer qu'il ait lieu. Bujumbura n'a même pas attendu la fin de cet ultimatum pour opposer un refus catégorique. Paul Nkunzimana, elle, de la mouvance présidentielle au Burundi.
Pourquoi des troupes régionales alors que nous avons des troupes à l'étranger? Il s'agit de piétiner la souveraineté de ces pays. C'est-à-dire que les puissances étrangères ont décidé de piétiner la souveraineté du peuple somalien. Les puissances étrangères ont décidé de piétiner la souveraineté du peuple centrafricain. En RDC, vous avez en fait les troupes de l'ONU, la MINUSCO, qui compte plus de 20 000. Cette force de 5 000, qu'est-ce qu'elle va faire pour le maintien de la paix? Alors que nous avons plus de 10 000 à l'étranger.
Paul Nkunzimana, joint à Bujumbura dans l'opposition. La réaction à l'envoi éventuel d'une force africaine au Burundi est positive. Olifax Ndabi Torere est un ancien candidat à la présidence.
Ce ne serait pas seulement une bonne chose, mais ce serait salutaire pour le Burundi à l'heure actuelle. Quand on regarde le déroulement des événements, au Burundi, il y a eu plusieurs morts depuis 2005, donc des personnes qui ont été jetées dans plusieurs rivières. Il y a eu des personnes qui ont été tuées en 2010 à Gatumba et plusieurs membres du parti FNL qui ont été tués après les élections de 2010, mais aussi les assassinats de 3 sœurs qui ont été décapitées. Ça veut dire qu'au Burundi, les massacres ont continué à grande échelle, bien sûr, et au moment où je vous parle, les massacres ont pris un autre élan. Et cela démontre que le gouvernement burundais lui-même n'est pas en mesure de pouvoir arrêter ce qui est en train de se passer.
Odifas Ndapi Torere, joint à Amsterdam par Chérubien Dorsil. En Centrafrique, plus qu'une semaine pour l'élection présidentielle qui aura lieu le 27 décembre. Un scrutin couplé aux législatives est crucial pour la sortie de crise en RCA. Sur place, les candidats s'activent en vue de convaincre les électeurs. Retrouvons à Bangui notre correspondant Freeman Sipila.
Ce lundi, la campagne électorale entre dans sa deuxième semaine et dernière ligne droite avant le premier tour du 27 décembre. Les candidats qui étaient jusque-là peu visibles sur la scène multiplient depuis ce week-end des meetings et des caravanes à travers la ville de Bangui. Les quartiers généraux ou comités de soutien se rivalisent en instruments musicaux, créant un véritable vacarme, surtout la nuit dans les quartiers. Parmi les 30 candidats à la présidentielle, 4 seulement ont le courage pour battre campagne dans certaines villes de l'intérieur du pays, contrôlées pour la plupart par des groupes armés. Difficile pour l'instant de faire un pronostic, car certains électeurs que nous avons interrogés ne savent pas encore qui voter pour mettre à la tête du pays. Alors que la campagne électorale est à sa deuxième semaine, 9 candidats aux législatives recalés par l'Autorité nationale des élections ont été autorisés ce dimanche par le tribunal administratif à revenir dans la course. Les différents candidats ont jusqu'au 25 décembre à minuit pour tenter de convaincre les quelques 2 millions d'électeurs centrafricains attendus aux urnes le dimanche prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'armée nigériane affirme avoir tué 12 militants du groupe islamiste Boko Haram dans 2 accrochages séparés dans le nord-est du pays, selon un communiqué produit dimanche soir. Le président nigérian Muhammadu Buhari a donné à l'armée jusqu'à fin décembre pour en finir avec l'insurrection de Boko Haram qui a fait 17 000 morts et 2,6 millions de réfugiés depuis 2009. Les observateurs doutent fortement que ce délai puisse être tenu malgré les communiqués victorieux de l'armée. Mali, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif, aux commandes de la MINUSMA, la mission des Nations Unies. Il va prendre fonction le 14 janvier 2016. L'ancien chef de la diplomatie tchadienne devra insuffler du sang neuf à la MINUSMA, objet de vives critiques. Le nouveau patron de la MINUSMA mesure l'ampleur du travail qui l'attend.
On ne peut pas faire la paix au Mali sans les Maliens. Cet accord a été signé par le Malien. Donc je vais vraiment m'investir pour que son application puisse voir le jour. Maintenant, parallèlement à ces acteurs qui ont signé l'accord d'Alger, il y a ce qu'on appelle les groupes armés terroristes, qui, eux, n'entrent pas dans ce schéma-là. C'est les gens qui ont opté pour une guerre asymétrique, dont souvent on ne connaît même pas l'objectif. C'est des gens qui sont tout simplement imbus par la notion de tuer, la notion de terroriser, la notion de détruire, mais la MINUSMA fera tout pour combattre ces groupes armés et terroristes afin que des actes comme celui de l'hôtel Radisson Blu ne puissent pas se produire.
Mahamat Saleh Anadif, le nouveau patron de la MINUSMA, au micro de notre correspondant Kassim Traoré au Mali. L'émissaire de l'ONU pour la Libye a indiqué dimanche que des contacts avaient été établis à Tripoli avec des responsables de la sécurité, notamment des milices, cela en vue d'installer le gouvernement d'Union nationale dans la capitale, Tripoli. Martin Kobler, qui a pris ses fonctions à la tête de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, en novembre dernier, a indiqué que le général italien Paolo Serra était en charge des négociations avec les responsables de sécurité à Tripoli. En Tunisie, un an après sa défaite électorale, l'ex-président Moncef Marzouki a lancé dimanche un nouveau parti politique. L'ancien chef de l'État tunisien a expliqué à l'AFP que le gouvernement est totalement impuissant face à la situation catastrophique du pays. Et nous en arrivons au dossier de ce journal avec le port du voile au Niger. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se sont entendus lors du dernier sommet de la CEDEAO tenu à Abuja au Niger pour interdire le voile islamique intégral dans leurs pays respectifs pour lutter contre la multiplication des attentats kamikazes commis notamment par des femmes. Abdul Razak Idrissa a recueilli les réactions de quelques Nigériennes.
Madame Alkassoum Nana est une sœur musulmane basée à Maradi. Avec son voile sur le visage, elle estime légitime la décision de la CEDEAO.
Par rapport à ce qui se passe dans ce monde, je comprends parfaitement. Et aujourd'hui, si je peux lui dire devant vos micros, c'est dommage que des gens ont confondu des choses pour que d'autres gens puissent aller jusqu'à prendre des décisions comme ça. Vous êtes venu dans mon foyer, vous avez vu, il n'y a rien qui règne que de l'amour, surtout l'amour du prochain. Je comprends la CEDEAO. Maintenant, le voile, c'est les bombes, c'est la violence, c'est la mort. C'est ça le voile, en fait, maintenant. Et c'est normal ce qu'ils ont demandé. C'est vraiment normal. Mais il ne faut pas que les gens mettent tout le monde dans le même panier. Ça n'a rien à voir. En tout cas, nous, à Maradi, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on peut voir de l'extrémisme. Ça n'existe pas chez nous.
Hajia Sakina Maman est, elle, fondatrice d'une école coranique communément appelée Makaranta, ici à Niamey. Elle apprend les versets du Coran uniquement aux femmes. Sur la décision de la CEDEAO, elle est catégorique. Pour cela, elle se réfère au Coran.
Ya ayyuhan nabiyou. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ولا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أو prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala dit à tes femmes, tes filles et les femmes des croyants de se protéger, de porter des voiles afin qu'on les reconnaisse et qu'on ne les fasse nul grief. Et ça, c'est notre identité. Le voile, c'est notre identité. Je ne pense pas qu'un quelconque gouvernement se hasarderait à dire qu'il va interdire le voile. On a le droit de pratiquer notre religion et pas un gouvernement, pas quelqu'un même qui est au-dessus du gouvernement ne peut pas nous interdire de porter le voile. Oui, pour la sécurité. Mais quelle sécurité? Si moi on me demanderait mon avis, je dirais que ce n'est même pas une façon de sécuriser un pays. Pourquoi ne pas invoquer Allah pour avoir cette sécurité-là? Parce qu'il est le seul qui peut sécuriser.
Pour le moment, au Niger, c'est seulement dans la région de Diffa, en proie aux attaques de la secte islamiste Boko Haram depuis le mois de février 2015, que le port du voile a été interdit par les autorités régionales. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Yémen, le cessez-le-feu a été prolongé pour une semaine alors que les parties en conflit se préparent pour une nouvelle rencontre sous l'égide de l'ONU. Ce sera le 14 janvier prochain. Et Joseph Blatter, président de la FIFA depuis 1998, et Michel Platini, président de l'UEFA depuis 2007, ont été suspendus pour 8 ans de toute activité liée au football en raison du fameux paiement controversé de 1,8 million d'euros qui les lie. La charge de corruption n'a pas été retenue contre les deux hommes par le tribunal interne de la FIFA, qui les juge coupables en revanche d'abus de position, de conflit d'intérêts et de gestion déloyale. Platini écope par ailleurs d'une amende de 74 000 euros, plus élevée que celle de Blatter, qui s'élève à 46 295 euros. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal, c'est dans 50 minutes exactement. Ce sera avec Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi à tous sur le continent.